Courant d'air
au-delà des frontières.
Bienvenue à tous dans Courant d'air. Pour la prochaine demi-heure, vous êtes en compagnie d'Enora pour l'émission qui vous fait voyager. On accueille deux amies tout à l'heure, l'une est turque, l'autre est kurde, Pınar et Semra. Mais avant toute chose, en première partie d'émission, c'est Meriadec qui nous emmène dans un petit archipel de l'océan Pacifique au Vanuatu. Le Vanuatu, c'est un archipel du Pacifique Sud et c'est à peu près à 500 km au nord-ouest de la Nouvelle-Calédonie. Meriadec, t'as passé 3 ans en Nouvelle-Calédonie, en fait t'habitais assez près du Vanuatu, donc t'en as profité pour faire quelques excursions pendant tes vacances. Concrètement, pour vous rendre au Vanuatu, vous n'avez pas suivi les circuits classiques, puisque vous ne vous êtes pas rendu en avion là-bas, vous avez pris le bateau. Ben, très précisément, en fait, vous y êtes allé en voilier. La traversée a duré à peu près 2 jours, alors comment est-ce que vous vous êtes organisé ?
Ben, pour l'organisation, c'est assez simple en fait. Le problème, c'est plutôt la nuit en fait, puisque quand on navigue sur plusieurs jours d'affilée, il faut pouvoir être sûr d'assurer la navigation la nuit. Donc on est toujours en binôme en fait et on se relaie environ tous les 2 heures. Dès que ça remue un peu, on a tendance à être malade un peu facilement. Donc soit on est sur le pont et on prend l'air et ça va, on compense un peu le mouvement du bateau, soit en gros on est sur une banquette mais allongé quoi. Disons qu'être actif ou assis quand ça bouge, c'est toujours un peu compliqué. Du coup, bah, souvent quelqu'un fait à manger, hop, il lance les pattes, il remonte, il redescend. Certains supportent mieux que d'autres, quoi. Mais il fait la bouffe pour tout le monde, il prépare les assiettes, il fait le café pour tout le monde, avec sucre, sans sucre, toi, hop, voilà. Bon, ça range, ça tourne, quoi. Des fois on voit pas ce qu'il y a devant nous, mais on doit quand même mouiller, on sait qu'on approche de la côte mais on voit pas en fait, ça arrive aussi. Donc on a le GPS, mais le GPS en fait il peut y avoir 1 à 2 km de marge des fois, donc des fois il indiquait qu'on était sur la terre alors qu'on était au mouillage dans la baie, voilà, donc c'est des choses comme ça. La première année on n'avait pas de pilote automatique, donc il fallait assurer en plus, donc sur une navigation auprès, donc vraiment on va dire vraiment à remonter le vent, vraiment à la limite en fait, que le bateau parte pas en vent de face en fait, parce que là on avance plus, on se fait ballotter par la houle, donc c'est juste l'horreur. Enfin bon voilà, des petites choses à assurer comme ça, c'était... Enfin moi j'ai bien aimé tout ça, voilà, j'ai adoré.
Pendant le mouillage, comment ça se passait ? Là, du coup, c'était plus cool.
Eh ben, oui, voilà, disons que le deuxième mode de vie sur un voilier, c'est le mouillage, quoi. C'est-à-dire qu'on est arrêté, on est protégé du vent, en principe, il n'y a pas ou très peu de houle. Donc, il n'y a pas de souci, hein, il n'y a pas de malade. En général, on peut boire des coups, jouer au poker, on fait la vaisselle dans la mer, on se lave dans la mer, parfois on s'en sert de toilette aussi, directement ou indirectement, puisque dans la mesure où, même en utilisant les toilettes, de toute manière l'évacuation évacue en dessous du bateau, tout est fait dans la mer, donc là faut pas se leurrer, on fait avec quoi, hein. Bon, sachant qu'il y a du courant, hein, on se met pas dans de l'eau stagnante non plus quoi, mais bon... Et puis si jamais on pêche, on mange aussi dans la mer quelque part. Donc tout est relié à la mer quoi finalement.
Pendant ton dernier quart la première année, en fait vous êtes arrivé de nuit. Vous avez vu en face de vous le volcan.
Donc c'est vrai que la première année où on est allé au Vanuatu, il nous a fallu 2 jours pour atteindre la première île. Et en fait on est arrivé au matin du deuxième jour en fait. Et ce matin-là, en fait, le moment où le jour s'est levé, je dirais même un petit peu avant, j'étais en quart de nuit donc sur le pont avec Greg, donc celui qui est devenu mon coloc plus tard. Et on a eu le bonheur d'apercevoir le volcan en fait cracher ses flamèches oranges de loin, et puis avec un nuage énorme en fait, qui était tout simplement la fumée du volcan. Sur fond de nuit quoi, et c'était juste magique, c'était juste pour nous deux. Ouais, c'était excellent. Et puis après c'est vrai que le jour se lève, on était tous assez fatigués parce qu'on a eu des des conditions, bah nous, petits débutants de la voile en mer, on a eu, je pense, des conditions de vent à ouais, 30-35 nœuds, à naviguer auprès, donc tout du long, donc avec en se prenant pas mal la houle dans la gueule, donc pas habitué et tout, donc on n'a pas forcément très bien dormi, donc c'est vrai que c'était un peu un mélange entre un soulagement et de l'émerveillement, quoi, en fait. Et après, bah, chacun s'est levé, on a tous aperçu la terre.
Vous êtes arrivé par d'autres voies, donc vous avez aussi rencontré des gens qui n'étaient pas spécialement habitués à rencontrer du touriste.
Oui, c'est vrai que le fait d'arriver en bateau, donc c'est pas du tout pareil que quand on arrive en avion, par exemple par l'aéroport de Port Vila ou de Santo. Donc il y a certaines îles, en fait certains villages qui sont pas accessibles en prenant l'avion et en allant par exemple en 4x4 derrière, quoi. Donc des villages qu'on peut accéder seulement par bateau. Et il n'y a pas finalement tant que ça de... Il y a des gens qui font un peu du charter au Vanuatu, mais... Oui, il y en a quand même, mais finalement, y a assez souvent les mêmes îles qu'ils vont visiter. Et nous, on a visité des îles qui sont très rarement visitées, quoi.
Traim imatsen sapos wa trakea hemiolsem wol blu yumi.
Donc on est arrivé à Iromango, donc c'est je pense un village de 300 ou 400 habitants. Il y avait une personne qui essayait de construire un yacht club justement, qui voulait développer un peu le truc, enfin sachant qu'il y a quand même pas beaucoup de monde qui passe, quoi. Bah c'est vrai que les rapports humains c'est assez sympa, parce que sur Iromango par exemple, ils sont tellement pas habitués à voir des touristes que ils sont pas du tout dans un rapport d'argent, quoi. Et c'est vrai que, donc autant on est arrivé, on a demandé si on pouvait faire la chasse aux cochons et tout, on est arrivé aussi en disant que bah on avait des cadeaux aussi, quoi, c'est-à-dire des livres pour les enfants, du matériel de plongée, des t-shirts, des habits, des choses comme ça, donc qu'on a donné aussi en fin de séjour, mais... même sans ça, je veux dire, eux étaient contents en fait de nous accueillir et de nous proposer des choses, quoi. Donc ça, c'était très agréable. Donc pas de rapport à l'argent vraiment. Je pense que les sociétés mélanésiennes ont pas un rapport à l'argent très très développé. Je pense pas que ça les intéresse tellement intrinsèquement. Mais c'est vrai qu'au Vanuatu, on peut encore trouver des endroits où ils en utilisent peu, très peu ou pas du tout, quoi. Ça arrive. Le volcan de Tana, donc Tana qui est une île relativement touristique à cause de son volcan, il s'appelle le mont Yazur, donc c'est un volcan en activité avec un lac de lave, et c'est le volcan le plus accessible, alors j'ai entendu du monde, bon j'en sais rien au niveau de la classification, c'est pas ça, mais c'est vrai qu'on peut arriver en haut du cône, voir le lac de lave, et voir les projections vraiment de très près. Des fois, je pense que si le volcan est trop en activité, ça peut même être dangereux, puisque peut y avoir des morceaux de lave qui vous tomberaient dessus quasiment. Donc il y a un côté un petit peu risqué, ce qui ne serait pas autorisé dans des pays comme en France, par exemple, où tout est hyper sécurisé, quoi. Mais bon, enfin, après, c'est un peu le goût du risque, entre guillemets, relativement mesuré quand même, hein. Faut pas se leurrer, mais voilà, c'était magnifique à voir. Bah, la terre qui gronde... Ces énormes amas de pierres en fusion qui... En fait, c'est marrant parce qu'il y a toujours un espèce de tremblement, et puis après, hop, il y a un jet de magma énorme qui sort, en fait, comme un geyser, ouais, un geyser, quoi, c'est ça. Et qui retombe, c'est magnifique. Et il vaut mieux aller le voir le soir, justement, parce que la nuit, ben, du coup, ça fait des plus belles couleurs. Tout simplement.
Et toi, t'as fait de la planche sur le cône de cendre?
Ouais, alors ça, c'était un petit délire. Je crois qu'une fois, il y a un touriste qui avait déposé une planche de snowboard Donc, nous, on a récupéré la planche, en fait. Donc, bon, après, ils ont commencé à faire un peu de business là-dessus, quand même. Donc, du coup, ils nous ont fait un peu payer. Mais voilà, c'était le petit délire de descendre, descendre sur le cône de cendre, en fait, en snowboard. Voilà, c'était assez fun.
Là-bas, ils ont d'ailleurs un rapport à la musique qui est assez différent d'ici.
Bah, c'est vrai que dans une île, on a vu un truc assez particulier, c'est que il y a des femmes qui font, donc c'est les femmes qui font la musique, et elles la font dans l'eau. C'est-à-dire qu'elles utilisent l'eau, en fait, elles tapent dans l'eau, elles remuent l'eau pour faire des sons particuliers. Ils appellent ça donc la water music. C'est assez bluffant, moi, quand j'ai entendu ça la première fois, j'ai été assez bluffé.
Quand on s'imagine île du Pacifique, on se dit évidemment, on imagine des plages de sable blanc, des gens qui se baignent aussi. Il faut quand même faire assez attention quand on arrive là-bas.
Oui, c'est vrai que c'est assez magnifique. Les gens sont vraiment gentils. Par contre, ce sont des gens assez pudiques. Et c'est vrai que par exemple, pour une femme, c'est mieux de se baigner en cachant le haut et une partie du bas. Par exemple, c'est mieux d'avoir, je pense, un petit short et un t-shirt, par exemple. Et même pour les hommes, ouais, le haut du corps, parfois, c'est mieux de recouvrir. Pas forcément pour se baigner, mais dans la vie de tous les jours, en fait, c'est mieux vu. Donc voilà, après, c'est vrai qu'il faut respecter un peu les us et les coutumes, parce que bah, on n'est pas chez nous. Voilà.
Qu'est-ce qu'il faut prévoir comme budget pour ce genre de voyage?
Pour le voilier, nous, c'était pas très cher. Je pense qu'on a dû payer 400 dans les, ouais, peut-être 450 euros en tout. Après, faut compter du coup la bouffe, donc à embarquer sur le bateau avant. Donc du coup, a priori, on mange sur le bateau, etc. Bon. Et puis, certaines fois, quand même un peu d'argent. Donc soit pour les activités, genre on a loué un 4x4 pour aller au volcan, des choses comme ça. Enfin, on a loué un 4x4. On a demandé à une personne de nous déposer, en fait. Donc je pense qu'en tout, on aurait dû en avoir pour 600, 650 euros. Pour une dizaine de jours.
On quitte Mériadeck avec un groupe de musique vanoise locale, un Vanuatu String Band. On retrouve deux femmes étonnantes juste après, Pnar et Semra. Alors à tout à l'heure.
Thank you.
Vous écoutez Radio Campus Rennes, ici Enora, bienvenue dans Courant d'air, l'émission qui vous fait voyager. En cette seconde partie d'émission, on rejoint Semra Epnar. Semra est kurde, et Epnar est turc. Semra fait un master de mathématiques à l'université de Rennes, et puis Epnar travaille dans le milieu culturel ici en Bretagne. J'aurais aimé savoir un petit peu par rapport à la communauté kurde, si je comprends bien, c'est un peuple en fait qui existe depuis plus de... qui se bat depuis plus de 200 ans en fait pour être reconnu et exister en tant que tel. Il est disséminé entre l'est de la Turquie, la Syrie, l'Iran et puis l'Irak. On en entend parler en ce moment parce qu'il y a des Kurdes qui sont en train de se battre en ce moment même contre l'État islamique.
Oui, c'est à Kobané, en Irak, à Shingal. Les deux villes sont très connues par la tragédie qui sont touchées par les djihadistes.
Vous êtes des femmes assez particulières parce que vous êtes un peu différentes, si on veut, c'est ce que vous dites vous-même, de la communauté, des communautés en fait traditionnelles turques et kurdes qui sont à Rennes. Vous ne partagez pas forcément tout à fait les mêmes valeurs aussi traditionnelles, en tout cas, que ces communautés-là. Par ailleurs, si j'ai bien compris, elles vivent assez séparément. La communauté turque et la communauté kurde n'ont pas beaucoup de liens ensemble ici.
En fait, moi, quand j'ai bossé avec Traveling, Festival de Traveling, j'ai rencontré avec deux communities et j'ai vu que vraiment entre les Kurdes et les Turcs, il n'y a pas de relation et ça m'étonnait aussi.
Bah justement, par rapport au fait de vivre ensemble et de se comprendre, pour toi, Epnar, quand on est loin de son pays, forcément, il y a un moment où on a le mal du pays, ça commence à nous manquer et à partir de là, on peut commencer à partir dans un état d'esprit parfois un peu négatif par rapport à la société qui nous accueille.
Quand on est loin de notre pays et notre valeur, on voit des choses qui passent autour de nous et chaque fois qu'on voit des choses, on est en train de comparer. Chez nous, c'était comme ça. Ici, c'est comme ça. Chez nous, c'est comme ça. Ici. Du coup, on n'arrête pas de comparer des choses et au bout d'un moment, quand on rentre de ce jeu-là, et on devient plus conservatif et on pense que, parce que ça nous manque, notre pays, on pense que c'est le meilleur, c'est où on était, parce qu'on connaît mieux. Mais en fait, c'est juste, il ne faut pas tomber dedans, il faut essayer d'aller chercher des nouvelles valeurs, rencontrer des jeunes.
D'ailleurs, pour toi, Semra, le problème de la radicalisation, ce que tu disais, en fait, les radicaux, c'est parce qu'ils sont pleins de peur qu'ils deviennent radicaux.
Ici, par exemple, il y a des jeunes qui sont influencés par les djihadistes, par les radicaux. Les radicaux utilisent des peurs de modernité pour les gens, pour la communauté qui sont conservatrices, qui sont traditionnelles, qui sont religieux. Et il y a beaucoup de problèmes sur l'intégralité à la culture moderne française. C'est pour ça que ça pose plein de problèmes.
Il n'y a pas mélangé. Quand moi, la première fois, quand je suis passée à Paris, on est allé dans les quartiers indiens, on est allé dans les quartiers chinois, dans les quartiers turcs. Et moi, je n'avais pas vu ça avant parce que chez nous, okay, il y a des quartiers pauvres, il y a des quartiers riches, mais ce n'est pas exactement tout mélangé comme ça.
En tout cas, pour comprendre un peu mieux comment ça se passe en fonction des différents états d'esprit des gens, en fonction des identités, des lieux, de l'histoire, enfin, c'est plein de facteurs en fait, qui entrent en jeu. Je conseille la lecture de Les identités meurtrières de Amin Malouf, qui est un Libanais qui est arrivé en France il y a un certain temps, hein, ça fait au moins 30 ans. Il est entré à l'Académie française il y a pas si longtemps que ça, il y a quelques années. Et c'est une personne qui donne, en tout cas, beaucoup de... qui essaye de théoriser un petit peu, de comprendre ce qui se passe maintenant entre les différentes civilisations et qui propose aussi des solutions, justement, par rapport à ça, pour mieux vivre ensemble, en fait, quoi. Par ailleurs, il y a eu pas mal de choses, Epnar et Semra, que vous avez remarquées, ici, en tout cas, chez les Français. Des petites choses qui vous ont fait un petit peu bizarre par rapport à la manière de vivre des Français en général.
Les preuves, en fait, quand je commence à vivre ici, j'étais en train de travailler et à un moment j'ai rendu compte que les gens sont un peu plus froids avec moi, ils ne parlent pas directement avec moi et tout. Et j'étais bien avec une personne, du coup j'ai demandé, donc, mais pourquoi les gens ne directement parlent pas avec moi, ils ne demandent pas à moi et tout. Et elle m'a dit, première, il faut que tu te prouves, tu fais des preuves, et après, il faut que tu montres tu es qui, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu aimes bien. Et après, les gens vont demander tu es qui, ils vont venir parler avec toi. Et c'est vrai, quand j'ai fait mes preuves, j'ai rendu compte que les gens viennent vers moi. Mais en fait, en Turquie, ça c'est au contraire, quand tu es étranger, si tu parles beaucoup, tu montes toi, ça c'est vraiment mauvaise vue. C'est mieux que tu es plus silencieux et les gens viennent vers toi. Et ici, comme on nous dit avec Semra aussi, les différences des occidentaux et orientaux, chez nous c'est plus les gens plus hospitalité, parce que c'est vrai que si tu es étranger, ils te demandent est-ce que tu es bien, est-ce que tu veux manger ça, est-ce que tu veux faire ça. Mais ici, c'est plus, il faut tout début tu parles, tu dis que, qu'est-ce que tu as besoin, mais sinon tu restes à côté.
En fait, si je comprends bien, chez vous, c'est comme vous disiez tout à l'heure, en fait, l'étranger, c'est plutôt la star, parce que les gens sont curieux et veulent savoir qui vient les voir, en fait, et veulent communiquer. Mais par contre, chez nous, c'est pas du tout la même manière de faire, en fait. Il faut que les gens, que les étrangers, en tout cas, arrivent, viennent, parlent, s'expriment, montrent qui ils sont, et ensuite, le groupe voit si, éventuellement, ils l'intègrent ou pas dans le fonctionnement, ce qui est en fait super difficile à vivre. Enfin, c'est pas évident, parce que quand on n'a pas de repères, qu'on connaît pas vraiment les codes sociaux, on sait pas comment en fait les autres fonctionnent. Donc en fait, on sait pas vraiment si ce qu'on fait et comment on se comporte, ben, c'est conforme ou pas.
Peut-être ça prend plus de temps du coup, parce que il faut tout d'abord observer pour comprendre que, qu'est-ce qu'il a, comment il faut faire. Tu observes et après tu comprends et, ça c'est l'intégration, je crois. Mais ça prend plus de temps.
Et aussi on devient maladroite au niveau des codes. Parfois on fait plus de gaffe, ça commence mal déjà pour les personnes.
Après voilà, je pense qu'il faut que chacun fasse preuve un peu d'ouverture et de curiosité, et puis les choses se passeront plus facilement pour tout le monde, en fait, c'est ça quoi. D'ailleurs, si on en revient un petit peu plus à la Bretagne, il y a des échanges en fait de fait entre les cultures, notamment au niveau musical.
Oui, en fait, avec Eric Marchand, moi, j'ai travaillé avec lui, et il y a eu des musiciennes turques qui sont venues ici, et aussi son colloque Bertrand, qui a amené des musiciens turcs comme Hasan Yarım Dünya, Kardeş Türküler, pour son festival à Brest.
Entre l'association des Bretons et entre nous, on a eu des organisations, des marches ensemble.
Avec l'association de Amara, il y a eu des musiciens bretons, Ervan Ermiye, qui était sur scène. Ouais. Avec Semra, on était dans l'organisation aussi.
Et par rapport aux récents événements, à la tragédie qui s'est déroulée, l'assassinat de certains dessinateurs de Charlie Hebdo, enfin voilà, tout ce qu'on a pu suivre après, les prises d'otages, assassinat de d'autres personnes dans un magasin, enfin voilà. Là, on a passé un cap, en tout cas en France. Qu'est-ce que vous souhaiteriez dire par rapport à ce qui s'est passé, par rapport à tout ça ?
Je vais utiliser le slogan que j'ai entendu beaucoup, on est tous Charlie. Parce que les journalistes qui sont tués par les djihadistes, ils caricaturisaient la vie. On a besoin des personnes comme ça, parce que ça peut nous aider de vivre. On critiquait des choses, on pense. C'est pour ça qu'il faut garder la différente manière de vivre en France.
Je trouve un peu dur ce sujet, parce que c'est un long sujet de parler. Mais quand on regarde depuis quelques années qu'est-ce qui se passe dans le monde, c'est toujours des journalistes qui sont tués, les journaux qui sont fermés. Et après, plein de manifestations qui étaient vachement énormes en Turquie, en des autres pays ici. Et toujours les gens qui sont l'esprit ouvert, qui sont tués. Et du coup, c'est un, je sais pas, je veux pas dire c'est un complot, mais c'est vachement un truc. Nous, on n'est pas une arme. Et voilà.
Tu disais aussi que le peuple kurde, vous n'avez rien à voir avec ça. Et que même vous êtes en guerre, en fait, hein, contre l'État islamique en ce moment.
Oui, en Syrie, la ville Kobané, c'est très très connu au monde. Mais je veux critiquer un petit peu la France, parce que la France était en silence pendant la guerre. Elle était avec la Turquie et ils faisaient rien du tout contre les islamistes. Peut-être après la tragédie, il y aura des mesures contre les islamistes, quoi. J'espère, parce qu'on sait bien qu'ils sont capables de faire quoi. C'est pour ça qu'on en a peur, quoi. On est contre, on n'est pas du tout d'accord. Et aussi, on se bat contre eux, quoi.
C'est tout pour aujourd'hui. Merci, chers auditeurs, de nous avoir écoutés. Merci à ces beaux témoignages de nos invités Meriadek, Pnar et Semra. Merci à DJ Bril pour la musique de Courant d'air et puis à Claude pour son soutien à la réalisation. Si vous souhaitez nous retrouver, c'est facile, Courant d'air sur Facebook et sinon on est aussi sur le site de Radio Campus Rennes. On se quitte en musique avec Dar El Dim du groupe turc Kardeş Türkler.
Güle güle.
Hatırlayı Uğur Bey.
Gelir beyler bizim. Kıldım durdum baksana ben nerede mi kalacaktım?